Actuellement, il y a un prêtre du diocèse de Metz qui est en train de rédiger la positio, le volume, qui ressemble un peu à une thèse de doctorat, dans lequel on doit démontrer l'héroïcité des vertus du serviteur de Dieu. Et donc, c'est la rapidité ou la non-rapidité des travaux de rédaction qui, évidemment, ont une influence sur le déroulement de la cause. Mais c'est une cause qui a le grand avantage de ne pas connaître d'obstacles. L'unique difficulté, c'est que, comme Robert Schuman a été un laïc, un homme politique, qui n'a pas fait de sermon, qui n'a pas écrit de livre de spiritualité, il faut aller chercher dans les témoignages qui ont été recueillis lors de l'enquête diocésaine et dans l'abondante documentation, plusieurs dizaines de milliers de pages de documents, c'est là qu'il faut aller chercher le témoignage de la façon dont il a vécu les vertus chrétiennes, spécialement la foi, l'espérance et la charité.
Quand on va chercher justement recueillir ces témoignages, comment s'est exprimé, se sont exprimées ses vertus, sa sainteté? Est-ce que c'est de l'ordre de sa vie personnelle ou de sa vie publique?
Les deux, parce que voilà ce qui tranche entre le personnage de Robert Schuman et le spectacle que nous offre aujourd'hui le monde politique, c'est qu'aujourd'hui, on considère que les opinions philosophiques ou les croyances religieuses sont du domaine privé et ne doivent pas du tout avoir d'influence sur la vie publique. Mais c'est une grande erreur, parce que la foi chrétienne est une foi qui doit irriguer et féconder toute la vie. Alors, Schuman est un excellent exemple, non seulement pour les politiques, mais pour tous les chrétiens. Il vit absolument ce qu'avait enseigné plusieurs siècles auparavant le grand saint François de Sales, c'est-à-dire tout homme et toute femme doit devenir saint dans l'exercice même de son devoir d'État. Et vous savez que saint François de Sales dit, eh bien, le capucin ne peut pas vivre la sainteté comme la vivre à l'évêque, ou bien l'artisan ne peut pas le faire comme un moine qui est cloîtré. Et alors, Schuman est un homme donc qui n'a pas fait de sermon, mais il a vécu sa foi chrétienne dans l'exercice de ses responsabilités politiques.
C'est l'évêque de son diocèse qui l'a appelé à s'engager en politique pour réaliser le projet européen.
Oui, c'est Mgr Benzler, le premier, qui précisément l'a engagé, et cela donc dès avant la Première Guerre mondiale. C'est dire que déjà à l'époque, les évêques étaient tout à fait conscients du fait que le domaine politique, c'est le domaine privilégié dans lequel les laïcs chrétiens peuvent et doivent servir le bien commun.
On envisage souvent la politique comme, bien sûr, la gestion collective pour le plus grand nombre, pour le bien de tous, mais aussi les coups bas un peu nécessaires, le carriérisme. Comment est-ce qu'on peut allier à la fois la politique et la sainteté? C'est pas contradictoire d'une certaine manière?
Non, ce n'est pas contradictoire. Ce qui est contradictoire, ce sont les dévoiements de la politique. Vous y faites vous-même allusion, le carriérisme, les coups bas, etc. Mais ça, c'est en opposition avec l'idéal du chrétien. Le chrétien ne devrait jamais se prêter à ce genre de choses. Alors, c'est pour cela que l'on parle de l'héroïcité des vertus, quand on parle donc de quelqu'un que l'on veut présenter comme exemple par la béatification ou la canonisation. C'est-à-dire que ça ne va pas de soi. Et si Schuman, et je le crois intimement, est un saint, c'est parce qu'il a reçu la grâce de Dieu et qu'il y a coopéré. Il lisait constamment la Bible, il méditait, et surtout, il recevait l'Eucharistie chaque jour. Et c'est ce qui a été la nourriture de sa vie, et c'est dans ce contexte de prière, de générosité, eh bien qu'il a conçu son projet pour l'Europe.
On ne peut évidemment pas penser à Schuman sans penser à sa foi. On peut dire aujourd'hui que le fait qu'il ait été chrétien a façonné l'Europe telle qu'elle est?
L'Europe telle qu'elle est, vous savez, elle commence pratiquement avec Constantin. L'empereur Constantin, en 313, en étendant à l'ensemble de son empire l'édit de tolérance sur le plan religieux, a permis que l'Évangile soit proclamée dans tout ce qui est devenu l'Europe occidentale et l'Europe balkanique. Et puis après, avec le baptême du prince de Kiev, c'est toute l'Europe centrale et orientale qui devient chrétienne. Alors Schumann se situe dans une grande lignée, une lignée de 2 millénaires de christianisme. Et c'est en ce sens que sa foi chrétienne n'est pas un début, mais c'est la continuation d'une longue tradition riche de 2 millénaires, qui a connu ses hauts et ses bas, qui a connu ses époques de splendeur et ses époques aussi moins louables.
Si Robert Schumann était béatifié puis canonisé, ce serait le premier saint de l'Union européenne comme entité politique, disons pas géographique. Oui. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un encouragement pour les chrétiens européens ?
Ah ben sûrement. L'Europe d'aujourd'hui a besoin de ces exemples. Qui ne soient pas des êtres éthérés, lointains, non. Schumann, on l'en perçoit bien, est un homme de chez nous qui a connu des conditions de vie souvent difficiles, mais il suffit de se rendre dans sa maison, assis chez elle, et de voir la chambre dans laquelle il a passé les dernières années de sa vie pour comprendre que cet homme avait tout offert à Dieu. Il avait offert sa vie, toute son activité, et la fin de sa vie, qui s'est passée de façon assez douloureuse à cause de sa maladie, a été un peu comme le couronnement, la remise entre les mains du Seigneur de tout ce qu'il avait pu accomplir, de tout le bien qu'il avait pu faire.